Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, Le Monde Aujourd'hui, édition du 19 décembre 2014, en direct de Washington, Nathalie Barge et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition matinale, les États-Unis en première ligne dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
Appui en termes de suivi des contacts, appui en termes de logistique, en termes de conseils. Nous bénéficions de tout cela de la part du gouvernement américain avec ses institutions comme le CDC Atlanta et également l'USAID.
Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé, que nous entendrons tout à l'heure.
Centrafrique, la mission internationale passe au crible, les FACA, les forces armées nationales, complètement déstructurées depuis la rébellion.
Pour la première compagnie, on était à un pourcentage de 2% de personnel qui ont été exclus parce que il y avait pu y avoir des problèmes de violation de droits de l'homme, de choses comme ça.
Le lieutenant-colonel français Charles Michel.
En Mauritanie, report du procès des militants anti-esclavage de l'ONG Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste.
Le président américain a signé la loi adoptée par le Congrès autorisant davantage de sanctions contre la Russie pour son rôle dans la crise en Ukraine.
La Minute Écho également dans cette édition, les sports et puis la page musicale en fin d'émission, mais d'abord le journal.
En Centrafrique, affrontement depuis mardi à Mbres, ville située à 300 km au nord de Bangui. L'AFP parle de 28 morts. Nous avons joint sur place Nejad Ahmed, porte-parole de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, partie membre de l'ex-coalition Séléka.
On avait entamé des médiations avec eux. Ils ont envoyé le chef du village pour venir voir le commandant qui était sur place. Nous avons dit, ben là, il n'y a pas de problème, ce sont les fils du pays, ce sont nos frères, ils peuvent toutefois venir s'ils veulent la paix. Nous allons rester ensemble avec eux, œuvrer pour que la paix revienne. Malheureusement, avant-hier, il y a un commerçant qui partait pour acheter des bétails. Ils l'ont tué avec son petit frère. Nous avons envoyé des gens pour aller mener des enquêtes. De là, ils ont tendu de l'embuscade, ils ont commencé à tirer sur les hommes. Ils sont partis mener l'enquête et ceux qui sont aussi dans la ville de Mbré. Voilà, c'est ça qui a déclenché les hostilités.
Et là, on parle de 28 morts.
28 morts, ok. En tout cas, c'est un peu difficile qu'on vous donne vraiment le bilan exact. Mais 28 morts, je m'en doute.
Nejad Ahmed, porte-parole de l'UPC au micro de Bagassi Koura. Nous continuons de tenter de joindre un membre des anti-Balaka pour en savoir plus.
À 2 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la violence des insurgés de Boko Haram s'accentue. Une attaque du groupe salafiste dans le nord du pays a fait au moins 32 morts hier, tandis que 185 personnes ont été prises en otage. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Cela s'est passé dans l'état de Borno, fief historique de Boko Haram. Deux sources locales décrivent ainsi l'assaut survenu en début de semaine, mais dont on n'avait aucune information due à l'absence quasi totale, comme le dit l'AFP, de réseaux de téléphonie mobile et des routes en mauvais état. Les islamistes ont attaqué le village de Gomsuri, à 70 km au sud de Maïdougouri, tuant 32 personnes et enlevant 185 femmes et enfants. Une milice privée chargée de la protection du village n'a pas pu résister aux insurgés, mieux armés, indiquent les responsables locaux cités par l'AFP. Boko Haram s'en est pris par ailleurs à une unité de l'armée camerounaise dans la région d'Amchidé, près de la frontière nigériane. Selon le ministère camerounais de la Défense, 116 islamistes et un soldat camerounais ont trouvé la mort dans cet affrontement. De même source, on apprend que des tirs d'artillerie de l'armée camerounaise ont atteint des cibles en territoire nigérian, mais aucun bilan n'a été communiqué. Ce n'est pas la première attaque de Boko Haram contre les militaires à Amchidé, où 8 soldats et plusieurs dizaines de civils ont été tués le 15 octobre dernier par la secte radicale.
L'organisation Reporters sans frontières a demandé au président du Cameroun, Paul Biya, de ne pas ratifier une loi antiterroriste, craignant des conséquences néfastes pour la liberté de la presse. Jacques Aristide.
Cette loi, adoptée la semaine dernière par le Parlement, est censée répondre à une menace grandissante de Boko Haram dans le nord du pays. Elle prévoit notamment la peine de mort pour les faits les plus graves et pour les médias, l'infraction d'apologie du terrorisme est passible au minimum de 15 ans de prison ou d'une amende de 25 à 50 millions de francs CFA. Reporters sans frontières demande donc au président Paul Biya de ne pas ratifier cette loi à cause de sa définition extrêmement vague du terrorisme, la disproportion des sanctions prévues et la compétence exclusive des tribunaux militaires pour juger des actes de terrorisme. Fin octobre, 3 journalistes camerounais ont été inculpés par un tribunal militaire. Ils sont accusés de non-dénonciation de faits susceptibles d'attenter à la sûreté de l'État et sont interdits de sortie du territoire.
Au Kenya, une loi visant à renforcer la sécurité a été adoptée hier par l'Assemblée nationale dans une ambiance chaotique avec bagarres entre députés et multiples interruptions de séances. Henri Francisque.
Le texte a été finalement adopté par acclamation par les députés de la majorité sous les invectives et jets de projectiles d'opposants. Avec cette nouvelle loi, la durée de garde à vue pour des suspects d'actes de terrorisme passe de 90 à 360 jours. Les écoutes téléphoniques sont facilitées. Les journalistes qui gênent une enquête ou des opérations antiterroristes sont passibles de 3 ans de prison, comme ceux qui publient des images de victimes d'attaques terroristes sans l'accord de la police. Moses Wetangula, de la principale coalition d'opposition, promet de contester cette loi devant la justice. Pour le président Uhuru Kenyatta, ce texte est indispensable pour faire face aux menaces terroristes, notamment celles des Chebabs somaliens. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent un feu vert aux abus des forces de sécurité, déjà accusées d'exécutions extrajudiciaires au nom de la lutte antiterroriste. Amnesty International et Human Rights Watch disent craindre un retour à l'état policier comme au temps de Daniel Arap Moi.
Le président américain Barack Obama a exhorté son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi à investir dans les aspirations politiques, économiques et sociales de son peuple. Dans une conversation téléphonique hier, M. Obama s'est dit préoccupé au sujet des procès de masse, du maintien en détention de journalistes et de militants pacifiques et du statut des organisations non gouvernementales. Le président américain a affirmé l'engagement des États-Unis à continuer le partenariat avec l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et pour renforcer la sécurité régionale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama a signé la loi adoptée par le Congrès américain autorisant davantage de sanctions à la Russie pour son rôle dans la crise en Ukraine. Monsieur Obama a déclaré dans un communiqué jeudi que la signature de cette loi sur l'Ukraine n'implique pas un changement dans la politique de sanctions de l'administration américaine. Autrement dit, l'administration n'a pas l'intention d'imposer des sanctions en vertu de cette loi, qui toutefois lui donne des pouvoirs additionnels pouvant être utilisés si les circonstances le justifient.
La décision des Palestiniens de présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour arrêter l'occupation israélienne ne fera que retarder la résolution du conflit, affirme Israël. Pour l'État hébreu, les deux parties doivent plutôt se concentrer sur les négociations. Jean-Roger Bion.
La résolution présentée hier fixe un délai pour une solution négociée dont l'issue verrait la cohabitation des deux États, ce qui obligerait Israël à se retirer des territoires palestiniens. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Paul Hirschhorn, a déclaré que la stratégie palestinienne vise à éviter les négociations et encourage la poursuite du conflit.
And this conflict will only get resolved across the negotiating table.
Ce conflit ne se résoudra que sur la table de négociation. Il serait bien pour la communauté internationale d'expliquer cette vérité aux Palestiniens et à les encourager à revenir à la table des négociations et à s'atteler aux tâches difficiles des compromis à faire des deux côtés et dont les Palestiniens doivent assumer leur part.
La résolution aura besoin de l'approbation de 9 des 15 membres du Conseil et l'un des 5 membres permanents peut la bloquer avec son droit de veto. Parmi ces 5, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, la Russie et les États-Unis qui a utilisé le droit de veto pour empêcher par le passé toute action du Conseil contre Israël.
3 importants dirigeants du groupe militant État islamique ont été tués lors de raids aériens de la coalition conduite par les États-Unis en Irak entre mi-novembre et début décembre, a annoncé un haut responsable du Pentagone. Selon cet officiel, il s'agit de Haji Moutaz, un proche collaborateur du numéro 1 du groupe Abu Bakr el-Baghdadi, d'Abd al-Bassit, émir de l'État islamique en Irak, et de Radwin Talib, l'émir de Mossoul. L'État islamique est sur la défensive en Irak, souligne le Pentagone. et un tribunal pakistanais a libéré sous caution hier un homme accusé d'avoir orchestré les attentats terroristes de Mumbai en 2008, ayant fait 166 morts. Une décision vivement critiquée par les autorités indiennes. Zakir Rehman Lakhvi est un haut commandant du groupe militant Lashkar-e-Taiba basé au Pakistan. L'Inde attribue à ce groupe les attentats de Mumbai dans lesquels 10 hommes armés ont ouvert le feu et lancé des grenades pendant 3 jours autour de certains des monuments les plus célèbres du pays. Le ministre indien de l'Intérieur, Singh Rajnath, a qualifié la décision de la justice pakistanaise de très regrettable. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, c'est un regard sur l'actualité économique en Afrique. Nicolas Pinault pour en parler. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors Moody's et Fitch divergent sur les perspectives du Gabon.
Oui, l'agence de notation Moody's vient d'attribuer une première note de crédit aux émissions souveraines du Gabon, BA3, à long terme, avec des perspectives stables. Un diagnostic plus optimiste que celui dressé par son homologue Fitch, qui a abaissé les perspectives du pays de stable à négative. Le Gabon est désormais évalué par les trois principales agences de notation internationales, Fitch, Standard & Poor's et Moody's.
Un petit détour en RDC avec le Grand Hôtel qui va officiellement retrouver son lustre d'antan à Kinshasa.
Le Grand Palace quinois 5 étoiles avec ses 190 chambres, dont 24 suites, et sa table gastronomique. Le Grand Hôtel a fait peau neuve. Réouverture officielle le 15 janvier avec un nouveau nom, Pullman Kinshasa Grand Hôtel ou Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Le choix n'est pas encore fait. Pullman, c'est évidemment, Nathalie, le nom de l'enseigne haut de gamme du groupe Accor.
Et les Seychelles seront bientôt membres de l'Organisation mondiale du commerce.
Le Conseil général de l'OMC a approuvé la demande d'adhésion des Seychelles sous réserve de ratification par l'Assemblée nationale seychelloise. Le petit archipel de l'océan Indien devrait devenir le 161e pays membre de l'Organisation mondiale du commerce.
Merci Nicolas pour la Minute Éco. À présent les sports avec Bagassi Koura. Corruption à la FIFA, peut-être un vote pour la publication ou non d'un rapport d'enquête.
Oui, le comité exécutif de la FIFA a entamé hier jeudi une réunion de 2 jours à Marrakech en marge de la Coupe du Monde des clubs. L'occasion pour ses membres de voter en faveur ou non de la publication du rapport de Michael Garcia, lequel a démissionné de son poste de directeur de la chambre d'instruction du comité d'éthique. Citant certaines sources internes, l'équipe croit savoir que la consultation devrait être serrée. L'enquêteur américain a écrit un rapport d'une centaine de pages et récolté 200 000 pièces à conviction au sujet de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar afin de faire toute la lumière au sujet des soupçons de corruption qui entourent ces deux candidatures.
Et la polémique au sujet de la mort d'Albert Ebossé continue.
Il y a quelques jours, une autopsie pratiquée au Cameroun et dont les résultats viennent d'être révélés contredisent les thèses algériennes. Ebossé est mort des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme crânien, affirme le médecin camerounais André Mounet, qui a pratiqué une autopsie privée à la demande de la famille. Selon lui, Ebossé a été tué lors d'une risque dans les vestiaires après la rencontre. C'est totalement farfelu. Ebossé est tombé sur le terrain et a été évacué par une ambulance à partir de là, réfute un dirigeant kabyle contacté hier par l'AFP. L'attaquant camerounais de la GS Kabylie, qui était âgé de 24 ans, meilleur buteur du championnat la saison passée, est décédé à la fin du match au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou. C'était le 23 août dernier, après la défaite à domicile 2-1 face à l'USM Alger.
Enfin, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, d'abord, cette information est une paire de baskets portée par Michael Jordan lors de sa période universitaire a été vendue aux enchères pour plus de 33 000 dollars, soit 27 000 euros. C'est ce qu'a rapporté la presse américaine hier. L'acheteur est resté anonyme, tout comme le vendeur, un camarade de lycée à qui Jordan avait offert les baskets. Et pour terminer, Nathalie, quelques résultats de la nuit dernière, toujours en NBA.
Oui, les Knicks de New York ont perdu contre les Chicago Bulls par 97-103. Les New Orleans Pelicans ont gagné contre les Houston Rockets par 99-90. Milwaukee Bucks vainqueur face aux Kings de Sacramento par 108-107. Et autre vainqueur, Golden State Warriors contre Oklahoma City Thunder par 114-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge en direct de Washington. À présent, les dossiers du jour. Les États-Unis sont en ligne de front de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Washington a aidé à mobiliser des engagements financiers internationaux de plus de 2 milliards de dollars pour faire face à la situation. Par ailleurs, 3 000 militaires et civils américains sont déployés sur le terrain pour apporter un appui, notamment à travers les initiatives de l'USAID et des centres de contrôle et de prévention des maladies, les CDC d'Atlanta. Quel est l'impact de cette assistance américaine sur le terrain? Timothée Donangmaï a posé la question au ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama.
Depuis le début de cette épidémie, quand l'annonce a été faite le 23 mars 2014, jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à une contribution importante de la part des États-Unis. Appui en termes de suivi des contacts, appui en termes de logistique et même par rapport à la coordination en termes de conseils, nous bénéficions de tout cela de la part du gouvernement américain à travers ses institutions comme le CDC Atlanta et également l'USAID.
Quel aspect de cet appui américain a particulièrement bien fonctionné en Guinée?
Dans l'ensemble, comme je disais, CDC qui a l'expertise dans le cadre de la lutte contre les maladies est en train d'apporter toute son expertise, d'abord au niveau du suivi des contacts et également la mise en place d'un plan d'action nous permettant de boucler rapidement cette épidémie dans un bref délai. Il y a également, dernièrement, nous venons de recevoir de la part du CDC Atlanta un nombre important de véhicules, des motos, pour permettre à la cellule de coordination de mieux suivre les contacts qui aujourd'hui constituent un des groupes d'étranglement. Je pense qu'on n'arrive pas à maîtriser le mouvement des contacts. Il va être difficile de voir cette chaîne de contamination.
Est-ce qu'il y a eu des défis qui ont émergé en rapport avec la mise en œuvre de cet appui américain?
Les défis aujourd'hui, c'est d'abord comment rompre cette chaîne de contamination à travers la maîtrise du suivi des contacts et comment également procéder à la surveillance épidémiologique. Donc c'est en cela que CDC est en train de s'investir à travers toute son expertise qu'elle a mise à la disposition de la cellule de coordination pour que ces défis soient le plus tôt levés. Au départ, la communication était très mal faite et il a fallu les experts de CDC qui ont changé la méthode de communication pour que vraiment nous puissions réadapter la communication en fonction du contexte de l'épidémie.
Quelle est la situation du centre de santé de Massiré de Donka à Conakry? Est-ce qu'il est toujours ouvert, ce centre?
Il est question d'identifier, ça va être fait dans les 24 heures, un nouveau centre de traitement afin de démanteler le centre de Donka pour transférer les malades au niveau de ce nouveau centre qui va être construit.
Qu'en est-il des agents de santé sur le terrain? Est-ce qu'ils ont, par exemple, assez d'argent pour le carburant pour leur moto?
Oui, moi j'apprécie encore l'effort de CDC Atlanta, mais moins logistique qui ont été mis à disposition. Ils disent prendre en charge non seulement les conducteurs et le carburant pour rapidement effectuer la mission qui leur est assignée dans le cadre du suivi des contacts. L'une des difficultés aujourd'hui, c'est surtout les réticences. Ce matin même, monsieur le chef de l'État, le président de l'Afrique, le professeur Alpha Condé, ne cesse de le dire, il faudrait que nous persévérions dans la sensibilisation pour complètement vaincre ces réticences afin que nous parvenions le plus tôt à vaincre cette épidémie.
Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire aujourd'hui pour améliorer la mise en œuvre de leur assistance en Guinée?
Ce que nous demandons aujourd'hui aux États-Unis à travers le CDC et les institutions, c'est le renforcement de notre système de santé qui est vraiment très faible. Donc on a besoin de le renforcer pour qu'à l'avenir, nous soyons capables de gérer toute autre épidémie. Car vous vous souviendrez que nous sommes dans un monde qui a un perpétuel changement. Donc tout peut se dire. Donc on a besoin de renforcer ce système de santé, avoir des laboratoires performants, avoir des équipements modernes afin que nous soyons plus opérationnels et plus prompts en cas d'épidémie ou de notre maladie, que nous puissions bien sur place et que la prise en charge soit vraiment de façon adéquate.
Le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama, était joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
En Centrafrique, les forces internationales de maintien de la paix ont commencé à faire le tri au sein des FACA, une armée nationale fracturée, afin d'en exclure les éléments criminels présumés. Cette mission débute avec le premier bataillon qui doit être déployé dans le cadre de la reconstruction du pays. Un reportage de Nick Long à Bangui présenté par Lionel Gaïma.
La mission militaire française appelée Opération Sangaris travaille avec la mission onusienne MINUSCA et avec les autorités internationales pour se pencher attentivement sur le cas de chaque soldat de ce bataillon. L'objectif est d'assurer qu'aucun d'entre eux n'a commis des violations des droits de l'homme. Les FACA se sont désintégrés pendant le conflit de ces deux dernières années. Beaucoup de soldats se sont joints, les uns aux rebelles essentiellement musulmans de l'ex-coalition Seleka et les autres aux milices essentiellement chrétiennes des anti-Balaka, deux groupes accusés de massacres et autres atrocités. Jusqu'ici, le cas de 300 soldats ont été vérifiés et ce sera au tour du reste du bataillon, soit 200 hommes, le mois prochain. Le colonel français Charles Michel.
Aujourd'hui, le système judiciaire centrafricain est pour le moins désorganisé. Donc il fallait s'appuyer sur d'autres éléments pour vérifier ces personnels. Donc on est parti sur d'abord des déclarations des FACA de ne pas avoir commis de crimes de guerre, de violation du droit international humanitaire et un engagement à bien servir.
Mais ce n'est pas la seule base d'admission à ce bataillon. Chaque soldat est interrogé par un groupe de représentants de l'opération Sangaris, de la MINUSCA et des autorités centrafricaines. Et les casques bleus, usant de leurs propres renseignements sur les criminels de guerre et les violations des droits de l'homme, vérifient les informations sur les soldats en question. De nouveau le colonel Michel.
On a exclu un certain nombre. Sur la première compagnie, on était à un pourcentage de 2%. De personnels qui ont été exclus parce que il y avait pu y avoir des problèmes de violation de droits de l'homme, de choses comme ça.
Il a été décidé que le bataillon sera basé à Bangui, la capitale, et qu'il sera chargé de protection des sites dits d'intérêt national vital, dont probablement la présidence et le port de Lubangui, dit encore le colonel Michel.
Avant toute chose, ces points d'intérêt vitaux comme ces listes doivent maintenant être validés par une réunion qu'on appelle le comité de coordination technique, qui est une réunion entre les forces internationales et le gouvernement centrafricain, qui va valider la liste, individuellement chaque nom, et la liste des points d'intérêt vitaux.
Il reste encore beaucoup de travail à abattre avant que toute armée centrafricaine ne soit passée au crible et devienne opérationnelle. Pour le moment, on n'est pas sûr de la taille qu'elle devrait avoir. Le colonel Michel.
Il y a un gros travail aujourd'hui de l'ONU sur cette question de l'effectif. L'ONU a mandaté une organisation non gouvernementale, la Fédération Suisse de Déminage, pour créer une base de données qui permettrait à terme d'avoir une gestion des ressources humaines des forces armées centrafricaines plus performantes qu'elles ne l'est aujourd'hui.
Officiellement, l'effectif des FACA devait être de 7000 membres, dont les soldes ou les salaires sont payés par les donateurs. On ne sait pas si parmi les exclus, il y avait des enfants soldats. Selon l'UNICEF, leur nombre au sein de groupes armés est passé de 2500 à entre 6000 et 10000 ces deux dernières années.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En Mauritanie, le procès de 8 militants anti-esclavage a été reporté d'une semaine. Ces membres de l'ONG Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, dont son président Biramoul Dabeid, ont été arrêtés le 11 novembre dernier. Ils devaient comparaître hier devant un tribunal de Rosseau, dans le sud du pays. Pourquoi ce report ? Idriss Fall a posé la question à maître Brahimoul Debeti, chef du collectif de la défense.
Le procès qui a été programmé à l'improviste, sans information préalable des avocats ni des prévenus, a été renvoyé au 4 décembre 2014 à la demande de la défense qui a signifié au tribunal son désarroi devant une programmation qui n'a pas été communiquée à la défense et aux prévenus. Le tribunal a accédé à la demande de la défense et a renvoyé le procès pour le 24 décembre.
Au juste, est-ce qu'on sait ce qu'on reproche à Biram?
On approche adhérente, administration d'une association non autorisée, rassemblement non autorisé, et voilà des chefs d'inculpation, et on est en 2014, dans un pays qui a une constitution pluraliste, donc qui garantit toutes les formes de liberté, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et toutes les formes de liberté. Et la Mauritanie a ratifié un ensemble de conventions internationales qui consacrent toutes ces formes de liberté.
Au début, on l'avait accusé de l'incitation raciale, alors qu'il participait seulement à une caravane le long du fleuve Sénégal, non?
Écoutez, de telles allégations ou de telles inculpations n'apparaissent pas dans les chefs d'inculpation.
Biram est en détention avec 8 autres membres de son association anti-esclavagiste à Rosso et il y a 10 autres militants qui sont arrêtés à Nouakchott aussi. Est-ce que c'est un procès de l'ensemble qui va se passer ou pas?
Le procès de Rosso ne concerne que les personnes qui ont été arrêtées et poursuivies par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Rosso.
Maître Brahim Ouldebeti, avocat à Nouakchott. Et rappelons que le Parlement européen a appelé hier à la libération immédiate de ces militants anti-esclavage. Mais le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a personnellement rejeté cet appel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Craig Davis revient aux sources sur son nouveau single. Son nouvel album Seduction est attendu avant la fin de l'année ou début 2015. Le chanteur R&B compte bien prendre sa revanche après plus de 4 ans de silence radio. Alors ce matin, on écoute Craig Davis dans All Alone Tonight.
Alors Roger, le retour de Craig David se précise.
Mais évidemment Nathalie, il était temps puisque son précédent album Signed, Sealed, Delivered date déjà de 2010. Un peu plus de 4 ans d'absence motivé par des chiffres de vente en baisse et un manque cruel, on doit le dire, des tubes Deep Hot Stuff de l'album Let's Dance, son dernier titre à s'être classé dans le top 10 britannique en 2007.
Craig David dans All Alone Tonight. Merci beaucoup Roger.
C'est moi qui vous remercie Nathalie. Salutations ce matin à nos auditeurs à Koudougou dans la province de Boulkemdé.
Vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel. Et voilà la musique rythmée, c'est bon pour débuter la journée. C'est ainsi que se referme le monde aujourd'hui. Mise en onde par Anne Albertson, à la console John Allison, Nathalie Barge à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique et bon week-end en Afrique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.